Voici à l'œuvre les coléoptères vidangeurs à qui est dévolue la haute mission d'expurger le sol de ces immondices. On ne se lasserait pas d'admirer la variété d'outils dont ils sont munis, soit pour remuer la matière stercorale, la dépecer, la façonner, soit pour creuser de profondes retraites où ils doivent s'enfermer avec leur butin. Cet outillage est comme un musée technologique, où tous les instruments de fouille seraient représentés. Il y a là des pièces qui semblent imitées de celles de l'industrie humaine, il y en a d'autres d'un type original, où nous pourrions nous-mêmes prendre modèle pour de nouvelles combinaisons. Quel empressement autour d'une même bouse. Avant que le soleil soit devenu trop chaud, ils sont là par centaines, grands et petits, pêle-mêle, de toute espèce, de toute forme, de toute taille, se hâtant de se tailler une part dans le gâteau commun. Il y en a qui travaillent à ciel ouvert et ratissent en surface. Il y en a qui s'ouvrent des galeries dans l'épaisseur même du monceau, à la recherche des filons de choix. D'autres exploitent la couche inférieure pour enfouir sans délai leur butin dans le sol sous-jacent. D'autres, les plus petits, émiettent à l'écart un lopin éboulé des grandes fouilles de leurs forts collaborateurs. Quelques-uns, les nouveaux venus et les plus affamés sans doute, consomment sur place. Mais le plus grand nombre songe à se faire un avoir qui lui permette de couler de longs jours dans l'abondance, au fond d'une sûre retraite. Quel est celui qui trottine vers le monceau craignant d'arriver trop tard ? Ses longues pattes se meuvent avec une brusque cocherie, comme poussées par une mécanique que l'insecte aurait dans le ventre. Ses petites antennes rousses épanouissent leur éventail, signe d'inquiète convoitise. Il arrive, il est arrivé, non sans culbuter quelques convives. C'est le scarabée sacré, tout de noir habillé, le plus gros et le plus célèbre de nos bousiers. Le voilà attablé, côte à côte avec ses confrères, qui, du plat de leurs larges pattes antérieures, donnent à petits coups la dernière façon à leur boule, ou bien l'enrichissent d'une dernière couche, avant de se retirer et d'aller jouir en paix du fruit de leur travail. Suivons dans toutes ces phases la confection de la fameuse boule. Le chaperon, c'est-à-dire le bord de la tête, large et plate, est crénelé de 6 dentelures angulaires rangées en demi-cercle. C'est là l'outil de fouille et de dépècement, le râteau qui soulève et rejette les fibres végétales non nutritives, va au meilleur, le ratisse et le rassemble. Les jambes antérieures concourent puissamment à l'ouvrage. Elles sont aplaties, courbées en arc de cercle, relevées de fortes nervures et armées en dehors de 5 robustes dents. Faut-il faire acte de force, culbuter un obstacle, se frayer une voie au plus épais du monceau, le bousier joue des coudes, c'est-à-dire qu'il déploie de droite et de gauche ses jambes dentelées et d'un vigoureux coup de râteau déblaye une demi-circonférence. La place faite, les mêmes pattes ont un autre genre de travail. Elles recueillent par brassée la matière râtelée par le chaperon et la conduisent sous le ventre de l'insecte, entre les 4 pattes postérieures. Celles-ci sont conformées pour le métier de tourneur. Leurs jambes, surtout celles de la dernière paire, sont longues et fluettes, légèrement courbées en arc de cercle et terminées par une griffe très aiguë. Brassée par brassée, la matière s'amasse sous le ventre, entre les 4 jambes, qui, par une simple pression, lui communiquent leur propre courbure et lui donnent une première façon. Puis, par moments, la pilule dégrossit et mise en branle entre les 4 branches du double compas sphérique. Elle tourne sous le ventre du bousier et se perfectionne par la rotation. Si la couche superficielle manque de plasticité et menace de s'écailler, si quelques points trop filandreux n'obéissent pas à l'action du tour, les pattes antérieures retouchent les endroits défectueux. Un petit coup de large battoir, elle tape la pilule pour faire prendre corps à la couche nouvelle et emplâtrer dans la masse les brins récalcitrants. Les provisions sont faites. Il s'agit maintenant de se retirer de la mêlée et d'acheminer les vivres en lieu opportun. Là commencent les traits de mœurs les plus frappants du scarabée. Sans délai, le bousier se met en route. Il embrasse la sphère de ses deux longues jambes postérieures, dont les griffes terminales, implantées dans la masse, servent de pivot de rotation. Il prend appui sur les jambes intermédiaires et, faisant levier avec les brassards dentelés des pattes de devant, qui tour à tour pressent sur le sol, il progresse à reculons avec sa charge, le corps incliné, la tête en bas, l'arrière-train en haut. Les pattes postérieures, organes principaux de la mécanique, sont dans un mouvement continuel. Elles vont et viennent, déplaçant la griffe pour changer l'axe de rotation, maintenir la charge en équilibre et la faire avancer par les poussées alternatives de droite et de gauche. Et Hardy, ça va, ça roule. On y arrivera, non sans encombre cependant. Voici un premier pas difficile. Le bousier s'achemine en travers d'un talus et la lourde masse tend à suivre la pente. Mais l'insecte, pour des motifs à lui connus, préfère croiser cette voie naturelle. Projet audacieux dont l'insuccès dépend d'un faux pas, d'un grain de sable troublant l'équilibre. Le faux pas est fait. La boule roule au fond de la vallée. L'insecte, culbuté par l'élan de la charge, gigote, se remet sur ses jambes et accourt s'atteler. La mécanique fonctionne de plus belle. Mais prends donc garde, étourdi. Suis le creux du vallon qui t'épargnera peine et mésaventure. Le chemin y est bon, tout uni. Ta pilule y roulera sans effort. Eh bien non, l'insecte se propose de remonter le talus qui lui a été fatal. Peut-être lui convient-il de regagner les hauteurs. À cela, je n'ai rien à dire. L'opinion du scarabée est plus clairvoyante que la mienne sur l'opportunité de se tenir en haut lieu. Prends au moins ce sentier qui, par une pente douce, te conduira là-haut. Pas du tout. S'il se trouve à proximité quelques talus bien raides, impossibles à remonter, c'est celui-là que l'entêté préfère. Alors commence le travail de Sisyphe. La boule, fardeau énorme, est péniblement hissée, pas à pas, avec mille précautions, à une certaine hauteur, toujours à reculons. On se demande par quel miracle de statique une telle masse peut être retenue sur la pente. Ah, un mouvement mal combiné met à néant tant de fatigue, la boule dévale, entraînant avec elle le scarabée. L'escalade est reprise, bientôt suivie d'une nouvelle chute. La tentative recommence, mieux conduite cette fois au passage difficile. Une maudite racine de gramen, cause des précédentes culbutes, est prudemment tournée. Encore un peu et nous y sommes, mais doucement, tout doucement. La rampe est périlleuse et un rien peut tout compromettre. Voilà que la jambe glisse sur un gravier poli. La boule redescend pêle-mêle avec le bousier et celui-ci de recommencer avec une opiniâtreté que rien ne lasse. 10 fois, 20 fois, il tentera l'infructueuse escalade jusqu'à ce que son obstination ait triomphé des obstacles, ou que, mieux avisé et reconnaissant l'inutilité de ses efforts, il adopte le chemin en plaine. Le scarabée ne travaille pas toujours seul au charroi de la précieuse pilule. Fréquemment, il s'adjoint un confrère, ou, pour mieux dire, c'est le confrère qui s'adjoint. Voici comment d'habitude se passe la chose. Sa boule préparée, un bousier sort de la mêlée et quitte le chantier, poussant à reculons son butin. Un voisin des derniers venus et dont la besogne est à peine ébauchée, brusquement laisse là son travail et court à la boule roulante, prêter main forte à l'heureux propriétaire qui paraît accepter bénévolement le secours. Désormais, les deux compagnons travaillent en associés. À qui mieux, ils acheminent la pilule en lieu sûr. Y a-t-il eu pacte, en effet, sur le chantier, convention tacite de se partager le gâteau ? Pendant que l'un pétrissait et façonnait la boule, l'autre ouvrait-il de riches filons pour en extraire des matériaux de choix et les adjoindre aux provisions communes ? Je n'ai jamais surpris pareille collaboration. J'ai toujours vu chaque bousier exclusivement occupé de ses propres affaires sur les lieux d'exploitation. Donc, pour le dernier venu, aucun droit acquis. Serait-ce alors une association des deux sexes, un couple qui va se mettre en ménage ? Quelque temps, je l'ai cru. Chez les scarabées, les deux sexes ne se distinguent l'un de l'autre par aucune différence extérieure. J'ai donc soumis à l'autopsie les deux bousiers occupés au charroi d'une même boule, et, très souvent, ils se sont trouvés du même sexe. Ni communauté de famille, ni communauté de travail. Quelle est alors la raison d'être de l'apparente société ? c'est tout simplement tentative de rapt. L'empressé confrère, sous le fallacieux prétexte de donner un coup de main, nourrit le projet de détourner la boule à la première occasion. Faire sa pilule au tas demande fatigue et patience. La piller quand elle est faite, ou du moins s'imposer comme convive, est bien plus commode. Si la vigilance du propriétaire fait défaut, on prendra la fuite avec le trésor. Si l'on est surveillé de trop près, on s'attable à deux, alléguant les services rendus. Tout est profit en pareille tactique. Aussi, le pillage est-il exercé comme une industrie des plus fructueuses. Vainement, je me demande quel est le Proudhon qui a fait passer dans les mœurs du scarabée l'audacieux paradoxe « la propriété, c'est le vol ». Quel est le diplomate qui a mis en honneur chez les bousiers la sauvage proposition « la force prime le droit ». Les données me manquent pour remonter aux causes de ces spoliations passées en habitude, de cet abus de la force pour la conquête d'un crottin. Tout ce que je peux affirmer, c'est que le larcin est parmi les scarabées d'un usage général. Ces rouleurs de bouse se pillent entre eux avec un sans-gêne dont je ne connais pas d'autre exemple aussi effrontément caractérisé.
Il y a de fortes chances que l'on constate cet usage chez tous les primates actuels, ce qui inclut les humains bien évidemment.